Chapitre 10. Lettre du docteur Seward à l'honorable Arthur Holmwood. 6 septembre.
Mon cher Art, les nouvelles dont je suis porteur aujourd'hui ne sont pas bonnes. L'état de Lucie s'est quelque peu aggravé ce matin. Il en est toutefois résulté au moins une bonne chose. Mrs. Westenra, évidemment inquiète au sujet de sa fille, m'a consulté professionnellement à son sujet. J'ai saisi l'occasion et lui ai dit que mon vieux maître, Van Helsing, le grand spécialiste, venait séjourner chez moi et que nous pourrions tous deux prendre soin d'elle. Nous pouvons donc maintenant aller et venir sans l'inquiéter exagérément, car un choc signifierait pour elle une mort brutale, et ce serait désastreux dans l'état de faiblesse où se trouve Lucie. Chacun de nous se trouve face à d'immenses difficultés, mon pauvre vieux camarade, mais, plaise à Dieu, nous en viendrons à bout. Si c'est nécessaire, je vous écrirai, si bien que, si vous êtes sans nouvelles de moi, soyez certain que ce sera parce que je serai moi-même dans l'attente de nouvelles. En hâte, fidèlement vôtre, John Seward.
Journal du docteur Seward. 7 septembre.
La première chose que me dit Van Helsing quand nous nous rencontrâmes dans Liverpool Street fut « Avez-vous dit quoi que ce soit à notre jeune ami, le fiancé ?»« Non, dis-je, j'attendais que nous nous soyons vus, comme je vous l'ai dit dans mon télégramme. Je lui ai écrit pour lui dire simplement que vous veniez, car Miss Westenra n'était pas très bien et que je lui donnerais des nouvelles dès que j'en aurai. » « Bien, mon ami, dit-il, tout à fait bien. C'est mieux qu'il ne sache pas encore. » Peut-être n'aura-t-il jamais besoin de savoir. Je l'espère, mais si c'est nécessaire, alors il saura tout. Et, mon cher ami John, laissez-moi vous avertir. Vous vous occupez des fous. Tous les hommes sont fous d'une façon ou d'une autre. Alors comportez-vous avec les fous de Dieu, le reste de l'humanité, avec la même discrétion dont vous faites preuve vis-à-vis de vos propres fous. Vous ne dites pas à vos fous ce que vous faites, ni pourquoi vous le faites. Vous ne leur dites pas ce que vous pensez. Alors, vous devez garder pour vous tout votre savoir, le faire mûrir et le fortifier. Vous et moi devons garder ce que nous savons ici et là. Et il désigna mon cœur et mon front, puis fit les mêmes gestes vers son cœur et son front. J'ai déjà quelques idées. Je vous en ferai part plus tard. « Et pourquoi pas maintenant ? » demandai-je. « Cela pourrait être utile, nous parviendrions peut-être à prendre une décision. » Il m'arrêta, me regarda et me dit « Mon ami John, quand le blé a poussé, même avant qu'il n'ait mûri, quand le suc de la terre nourricière est en lui, et que le soleil n'a pas encore commencé à lui faire revêtir ses teintes d'or, le laboureur prend l'épi et le roule entre ses mains rugueuses. » Puis il souffle sur le grain vert et dit « Regardez, voilà du bon grain, nous ferons une bonne récolte, quand le temps sera venu. » Je ne vis pas le rapport et je le lui dis. Pour toute réponse, il s'approcha de moi, m'attrapa le bout de l'oreille et le tira malicieusement, comme il le faisait jadis pendant ses cours, et il me dit « Le bon laboureur sait alors ce qu'il en est, mais il l'ignorait auparavant. » Vous ne verrez jamais ce bon laboureur déterrer son blé pour voir s'il pousse. Cela, c'est pour les enfants qui jouent au laboureur, et pas pour ceux qui font de ce travail l'affaire de leur vie. J'ai semé mes graines, et la nature va maintenant faire son travail en les faisant germer. S'ils germent, tant mieux, c'est qu'il y a de l'espoir, et j'attendrai que l'épi commence à gonfler. Il se tut un moment, certain que je l'avais compris. Puis il reprit avec gravité « Vous avez toujours été un élève brillant. Vous n'étiez qu'un étudiant alors, maintenant vous êtes un maître, et je pense que vous n'avez pas perdu vos bonnes habitudes. Souvenez-vous, mon ami, que le savoir vaut mieux que la mémoire, et que nous ne devons pas nous fier à celle-ci. Et même si vous avez perdu vos bonnes habitudes, laissez-moi vous dire que le cas de notre chère Miss Lucie est tel qu'il pourrait, j'ai dit il pourrait, notez bien, être d'un véritable intérêt pour nous et pour les autres. Prenez note de tout avec soin, même de vos doutes et de vos conjectures, je vous le conseille. Plus tard, il sera peut-être intéressant pour vous de constater jusqu'à quel point vous aviez deviné la vérité. Nous apprenons de nos erreurs, pas de nos succès. Quand je lui décrivis les symptômes de Lucie, les mêmes que précédemment, mais infiniment plus prononcés, il me regarda d'un air grave, mais ne dit rien. Il prit d'une sacoche où se trouvaient des instruments et de nombreuses drogues, l'épouvantable équipement nécessaire à notre salutaire métier, comme il avait qualifié jadis lors de l'un de ses cours, l'équipement d'un spécialiste dans l'art de guérir. Quand nous fûmes introduits dans la maison, Mrs. Westenra vint à notre rencontre. Elle était inquiète, mais pas autant que je m'attendais à la trouver. La nature, dans sa générosité, a voulu que même la mort ait des antidotes aux terreurs qu'elle engendre. Et là, dans une situation où le moindre choc pouvait se révéler fatal, les choses sont ainsi faites que, pour une raison ou une autre, rien de ce qui n'est pas personnel ne peut l'atteindre. Et même ces terribles changements chez sa fille, à laquelle elle est pourtant si attachée. C'est comme si Dame Nature tissait autour de son corps une enveloppe de tissus insensibles, qui la protège des blessures qu'elle pourrait recevoir. S'il s'agit là d'un égoïsme salutaire, nous devrions réfléchir avant de condamner qui que ce soit pour le péché d'égoïsme, car ses causes sont peut-être plus profondes que nous ne pouvons le supposer. Mes connaissances en matière de pathologie mentale m'ont amené à me fixer une ligne de conduite. Mrs. Westenra ne devait pas se retrouver en compagnie de Lucie ou même penser à sa maladie si ce n'était pas absolument nécessaire. Elle accepta cette idée avec un tel empressement que je vis là aussi la main de la nature cherchant à protéger la vie. Van Helsing et moi-même entrâmes alors seuls dans la chambre de Lucie. Si je fus choqué lorsque je la vis hier, je peux dire que je fus horrifié de la voir aujourd'hui. Elle était terriblement pâle, d'une pâleur de craie. Le rouge semblait avoir littéralement disparu de ses lèvres et de ses gencives, et les os de son visage étaient saillants. Elle respirait si difficilement que c'était une torture de la voir ou de l'entendre. Le visage de Van Helsing se figea comme de la pierre, et ses sourcils convergèrent jusqu'à presque se toucher au-dessus de son nez. Lucie était étendue sans bouger et ne semblait pas avoir la force de parler, et pendant un moment, nous restâmes tous silencieux. Puis Van Helsing me fit signe, et nous sortîmes de la pièce sans un bruit. Dès que la porte fut refermée, il traversa rapidement le passage jusqu'à l'autre porte qui était ouverte. Il me tira sans ménagement derrière lui et referma la porte. « Mon Dieu, dit-il, c'est terrible, il n'y a pas de temps à perdre, elle va mourir, faute de sang pour maintenir l'activité du cœur. Nous devons faire une transfusion immédiatement, vous ou moi. Je suis plus jeune et plus fort, professeur, ce doit être moi. Alors préparez-vous sans attendre, je vais chercher ma sacoche, je suis prêt. » Je descendis avec lui et à ce moment, on frappa à la porte d'entrée. Quand nous arrivâmes dans le hall, la servante venait tout juste d'ouvrir la porte. C'était Arthur qui se précipita vers moi et me dit dans un murmure fébrile « Jack, j'étais tellement inquiet. J'ai su lire entre les lignes de votre lettre et ce fut une torture. Mon père allait mieux, alors j'ai accouru ici pour voir par moi-même. N'est-ce pas là ce gentleman, le docteur Van Helsing ? Je vous suis si reconnaissant, sœur, d'être venu. » Quand le regard du professeur s'était posé sur lui, il avait d'abord été mécontent d'être interrompu en un tel moment. Mais maintenant, comprenant sa démarche et appréciant la forte et jeune virilité qui émanait de lui, ses yeux brillèrent. Sans attendre, il lui dit gravement, tandis qu'il lui prenait la main, « Sœur, vous êtes venue à temps. Vous êtes l'amoureux de notre chère demoiselle. Elle est mal, très très mal. Non, mon enfant, ne réagissait pas ainsi, car le jeune homme, devenu soudain très pâle, s'était laissé tomber dans un fauteuil proche de l'évanouissement. Vous allez l'aider. Vous pouvez faire plus que tout autre monde, et votre courage est votre meilleure arme. « Que puis-je faire ? » demanda Arthur d'une voix rauque. « Dites-le-moi, et je le ferai. Ma vie lui appartient, et je lui donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. » Le professeur avait un sens de l'humour très développé, et moi qui le connaissais si bien, je pus en retrouver la trace dans sa réponse. « Mon jeune sœur, je n'en demande pas tant, pas la dernière. »« Que dois-je faire ?» Ses yeux étaient ardents et ses narines frémissaient d'impatience. Van Helsing lui donna une tape sur l'épaule. « Venez, dit-il, vous êtes un homme et nous avons besoin d'un homme. C'est beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que mon ami John. » Arthur le regardait sans comprendre et le professeur lui expliqua avec beaucoup de douceur. « La jeune Miss est mal, au plus mal. Elle a besoin de sang, elle doit en recevoir ou elle mourra. Je viens tout juste de consulter mon ami John et nous étions sur le point de procéder à ce que nous appelons une transfusion de sang, c'est-à-dire le transférer depuis des veines qui en sont pleines vers des veines qui en manquent. C'était John qui allait donner son sang parce qu'il est plus jeune et plus fort que moi. » À ce moment, Arthur me prit la main et, en silence, la serra avec force. « Mais maintenant, vous êtes ici et vous êtes plus indiqué que nous, jeunes ou vieux, qui combattons le mal avec notre cerveau. Nos nerfs ne sont pas aussi calmes que les vôtres, ni notre sang aussi vif que le vôtre. » Arthur se tourna vers lui et lui dit « Si vous saviez seulement comme je serais heureux de mourir pour elle, vous comprendriez... » Mais il s'interrompit, étranglé par l'émotion. « Bon garçon, dit Van Helsing, dans peu de temps, vous serez heureux d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour celle que vous aimez. Venez maintenant et taisez-vous. Vous pourrez l'embrasser avant que nous procédions, mais après, vous devrez partir, dès que je vous aurai fait signe. Ne dites pas un mot à madame, vous savez pourquoi. Elle ne doit éprouver aucun choc, et s'en serait un si elle avait vent de ceci. Venez. » Nous regagnâmes la chambre de Lucie. Arthur, sur les indications du professeur, resta à l'extérieur. Lucie tourna la tête et nous regarda, mais elle ne dit rien. Elle ne dormait pas, mais était tout simplement trop fatiguée pour faire un tel effort. Son regard était éloquent, mais ce fut tout. Van Helsing prit diverses choses dans sa sacoche et les déposa sur une petite table, hors de la vue de la malade. Puis il prépara un narcotique et, s'approchant du lit, il dit avec entrain « Maintenant, petite Miss, voici votre médicament. Buvez bien tout comme une bonne petite fille. Voyez, je vous soutiens pour que vous puissiez boire aisément. Voilà !» Elle avait réussi à boire. Je fus étonné de constater le temps que la drogue mit à agir. Cela montrait en fait à quel point Lucie était faible. Un temps infini s'écoula avant que le sommeil ne commençât à faire vaciller ses paupières. Le narcotique finit toutefois par montrer sa puissance, et elle tomba dans un profond sommeil. Quand le professeur jugea cela suffisant, il fit entrer Arthur et lui demanda d'enlever son manteau. Puis il ajouta « Vous pouvez l'embrasser, comme je vous l'avais promis, pendant que je rapproche la table. Aidez-moi, John, mon ami. » Et ainsi, aucun de nous deux ne les regardait tandis qu'ils se penchaient sur elle. Van Helsing me glissa « Il est si jeune, si fort et d'un sang si pur que nous n'avons pas besoin de le défibriner. » Alors, rapidement, mais avec des gestes très sûrs, Van Helsing procéda à l'opération. Tandis qu'il effectuait la transfusion, un semblant de vie sembla revenir aux joues de la pauvre Lucie, et même s'il devenait de plus en plus pâle, le visage d'Arthur rayonnait littéralement de joie. Après un moment, je commençais à m'inquiéter, car la perte de sang semblait commencer à affecter Arthur, aussi fort qu'il fût. Cela me donna une idée de ce qu'avait dû subir l'organisme de Lucie. En effet, tout le sang que venait de lui donner Arthur n'avait réussi qu'à la rétablir très partiellement. Mais le visage du professeur restait de marbre. Il était là, debout, montre en main, regardant tantôt sa patiente et tantôt Arthur. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Puis il me dit à voix basse, « Ne perdons pas un instant, c'est assez. Occupez-vous de lui, je m'occuperai d'elle. » Quand tout fut terminé, je pus constater à quel point Arthur semblait affaibli. Je pensais sa plaie et le pris par le bras pour l'emmener, quand Van Helsing nous parla sans se retourner. L'homme semble avoir des yeux derrière la tête. Le brave fiancé mérite, je pense, un autre baiser, auquel il a droit tout de suite. Et, l'opération maintenant terminée, il ajusta l'oreiller sous la tête de la patiente. Et à ce moment, l'étroit bandeau de soie noire qu'elle portait toujours à la gorge, fermé par une boucle ancienne en diamant que son fiancé lui avait offerte, remonta un peu, révélant des marques rouges sur la gorge de Lucie. Arthur ne les remarqua pas, mais je pus entendre l'inspiration sifflante qui est l'un des signes caractéristiques qui trahissent l'émotion de Van Helsing. Il ne dit rien sur le moment, mais peu après, il se retourna vers moi. « Emmenez maintenant avec vous notre brave fiancé, donnez-lui du vin de Porto et faites-le s'allonger un moment. Il devra ensuite rentrer chez lui et se reposer, dormir beaucoup et manger beaucoup pour récupérer tout ce qu'il vient de donner à sa fiancée. Il ne doit pas rester ici. Attendez un moment, j'imagine, sœur, que vous êtes impatient de connaître le résultat de l'opération. » Alors partez avec l'idée qu'elle a été en tout point un succès. Vous lui avez sauvé la vie pour cette fois, et vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer l'esprit apaisé. Tout ce qui pouvait être fait pour elle a été fait. Je lui dirai tout quand elle ira mieux, et elle ne vous en aimera que plus profondément. Au revoir. » Quand Arthur fut parti, je regagnai la chambre. Lucie dormait paisiblement, et son souffle était plus régulier. Je pouvais voir la courte pointe se soulever à chaque inspiration. Van Helsing était assis à son chevet et la regardait intensément. Le bandeau de soie recouvrait à nouveau les marques rouges. Je demandai au professeur dans un souffle, « Et cette marque sur sa gorge, comment l'expliquez-vous ? » « Et vous, comment l'expliquez-vous ? » « Je ne l'ai pas encore examinée, » répondis-je, et en même temps je desserrai le ruban. Il y avait, juste sur la veine jugulaire externe, comme deux marques de ponction, pas très grandes, mais d'aspect malsain. Il n'y avait aucun signe de maladie, mais les bords étaient blanchâtres et presque abîmés, comme par trituration. Il m'apparut tout de suite évident que cette blessure, ou quoi que ce pût être, était la cause de l'évidente perte de sang qu'avait subie la malade. Mais j'abandonnai immédiatement cette idée, car une telle chose ne pouvait exister. Le lit entier aurait été gorgé de sang, vu la quantité que la jeune fille avait dû perdre pour être aussi pâle avant sa transfusion. « Eh bien, » dit Van Helsing. « Eh bien, » dis-je, « je ne comprends pas. » Le professeur se leva. « Je dois retourner à Amsterdam cette nuit, » dit-il. Il y a là-bas des livres et d'autres choses dont j'ai besoin. Vous devrez rester ici toute la nuit et vous ne devez pas la quitter des yeux. Puis-je faire venir une infirmière ? Demandai-je. Nous sommes, vous et moi, les meilleures des infirmières. Veillez sur elle toute la nuit, qu'elle se nourrisse bien et que rien ne vienne la déranger. Vous ne devez pas dormir un seul instant. Nous pourrons toujours dormir plus tard, vous et moi. Je reviens dès que possible. Alors, nous pourrons commencer. » Commencer ? Mon Dieu, que voulez-vous dire ? Nous verrons, répondit-il, tandis qu'il sortait en hâte. Il revint un instant après, passa la tête dans l'entrebâillement de la porte et dit, un doigt levé en signe de mise en garde, « Souvenez-vous qu'elle est confiée à votre garde. Si vous la quittez et qu'un malheur en résulte, vous ne pourrez plus jamais dormir tranquille.
Journal du docteur Seward, suite. 8 septembre.
Je restai toute la nuit au chevet de Lucie. Les opiacés firent leur effet jusqu'au crépuscule, puis elle s'éveilla naturellement. Elle semblait être devenue un être différent de celui qu'elle était avant l'opération. Elle était même de bonne humeur, elle était pleine de joie et de vivacité. Mais je pouvais percevoir des signes de la période de prostration complète qu'elle venait de traverser. Quand j'informai Mrs. Westenra que le docteur Van Helsing m'avait ordonné de veiller Lucie, elle rejeta presque cette idée, prétendant que sa fille avait retrouvé sa force et son entrain. Je restai toutefois inflexible et me préparai à ma longue veillée. Quand la femme de chambre l'eut préparée pour la nuit, je restai dans la chambre, ayant entre-temps soupé, et je m'assis à son chevet. Elle n'y fit aucune objection, mais me regardait avec gratitude chaque fois que je croisais son regard. Après un long moment, elle sembla sombrer dans le sommeil, mais elle faisait à chaque fois un effort pour se ressaisir et résister à l'endormissement. Cela se répéta à plusieurs reprises, lui demandant à chaque fois davantage d'efforts et à des intervalles de plus en plus rapprochés. Il était évident qu'elle essayait de ne pas dormir, et je l'interrogeai. « Vous ne voulez pas dormir ?»« Non, j'ai peur. » »« Peur de dormir ? Et pourquoi donc ? C'est un bonheur auquel nous aspirons tous. »« Ah non, pas si vous étiez à ma place. » Si le sommeil était pour vous le présage de moments d'horreur. Le présage de moments d'horreur, mais par le ciel, que voulez-vous dire ?
Je ne sais pas, oh, je ne sais pas. Et c'est pour cela que c'est si terrible. Cette faiblesse m'envahit quand je dors. Aussi, je tremble à la seule idée de m'endormir.
Mais ma chère enfant, vous pouvez dormir cette nuit. Je veille sur vous et je peux vous promettre qu'il n'arrivera rien de fâcheux.
Ah, je vous fais confiance.
Je saisis l'opportunité et lui répondis : Je vous promets que si je vois le moindre signe d'un mauvais rêve, je vous réveillerai sans attendre.
Vraiment ? Oh, vous le ferez vraiment ? Comme vous êtes bon pour moi.
Alors, c'est entendu, je dormirai. Et en prononçant ces mots, elle poussa un long soupir de soulagement et sombra dans le sommeil. Toute la nuit, je la veillai. Elle resta immobile et dormit d'un long sommeil, profond et réparateur, les lèvres légèrement entr'ouvertes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec la régularité d'une horloge. Elle souriait en dormant. Il était évident qu'aucun mauvais rêve ne venait troubler sa tranquillité d'esprit. Tôt le matin, la femme de chambre entra. Je confiai Lucie à ses soins et rentrai chez moi où j'avais à m'occuper de nombreuses choses. J'envoyai un court télégramme à Van Helsing et à Arthur pour leur faire part des excellents résultats qu'avait donné l'opération. Mon propre travail, avec tout le retard accumulé, m'occupa toute la journée et il faisait nuit noire quand je trouvais le temps de m'enquérir de mon patient zoophage. Les nouvelles étaient bonnes, il était resté calme toute la journée et toute la nuit. Pendant mon dîner, je reçus un télégramme de Van Helsing en provenance d'Amsterdam, qui me recommandait de me rendre à Hillingham pour être prêt à le recevoir. En effet, il partait par la malle-poste du soir et me rejoindrait là-bas tôt le lendemain matin.
Journal du docteur Seward. 9 septembre.
J'étais très fatigué lorsque j'arrivai à Hillingham. Depuis deux nuits, j'avais à peine dormi et mon esprit commençait à ressentir cet engourdissement qui est le signe de l'épuisement cérébral. Lucie était levée et d'excellente humeur. Quand elle me serra la main, elle me regarda droit dans les yeux et me dit « Pas de veillée pour vous ce soir, vous êtes épuisé. Quant à moi, je vais mieux réellement. » Et s'il fallait encore veiller, alors ce serait moi qui vous veillerais. Je ne voulus pas la contredire et allai me restaurer. Lucie m'accompagna et, égayé par sa charmante présence, je fis un délicieux repas et bus quelques verres d'un porto vraiment excellent. Puis Lucie m'emmena à l'étage, dans une pièce attenante à sa chambre, où brûlait un feu très agréable. « Et maintenant, dit-elle, vous restez ici. Je vais laisser cette porte ouverte, et la mienne également. Vous pouvez vous étendre sur le sofa. Je sais bien que vous autres médecins êtes incapables d'aller au lit tant qu'il y a un malade à l'horizon. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'appellerai, et vous viendrez immédiatement. » Je ne pus qu'accepter, car j'étais brisé de fatigue et n'aurais pu rester assis si j'avais essayé. Et ainsi, tandis qu'elle renouvelait sa promesse de m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit, je m'étendis sur le sofa et oubliai tout. Journal de Lucie Westenra, 9 septembre.
Je me sens très heureuse ce soir. J'ai été si abominablement faible que d'être capable de penser et de bouger est exactement comme de sentir la caresse du soleil après une longue période de vent sur un ciel d'acier. En tout cas, je sens Arthur vraiment, vraiment proche de moi. Je ressens sa présence chaleureuse qui m'enveloppe. Peut-être est-ce parce que la faiblesse et la maladie sont des choses égoïstes qui nous empêchent de nous intéresser à autre chose qu'à nous-mêmes, tandis que la santé et la force donnent libre cours à l'amour. Je connais mes pensées. Si seulement Arthur les connaissait. Mon chéri, vos oreilles doivent tinter pendant votre sommeil, comme les miennes pendant la veille. Ah, le repos béni de la nuit dernière. Comme j'ai bien dormi avec le bon docteur Seward qui veillait sur moi. Et cette nuit, je n'aurai pas peur de dormir, puisqu'il est à portée de main et de voix. Merci à tout le monde d'être si bon pour moi. Merci à Dieu. Bonne nuit, Arthur. Journal du docteur Seward. 10 septembre.
Je pris conscience de la main du professeur posée sur ma tête et fus réveillé dans l'instant. Voilà au moins une chose que l'on apprend quand on travaille dans un asile. « Et comment va notre patiente ?»« Bien, quand je l'ai quittée, ou plutôt quand elle m'a quittée, répondis-je. « Venez, allons voir, dit-il. » Et nous entrâmes ensemble dans la chambre de la jeune fille. Le store était baissé, et j'allais le lever tout doucement, tandis que Van Helsing s'approchait de sa démarche de chat vers le lit. Quand je levai le store, la lumière du matin inonda la chambre. J'entendis la fameuse inspiration sifflante du professeur, et, sachant combien elle était rare, une terreur mortelle envahit mon cœur. Tandis que j'arrivais, il se recula, poussant une exclamation d'horreur. « Gott im Himmel !» Qui aurait suffi à me faire comprendre la situation si je n'avais vu son visage tourmenté? Il leva la main et me désigna le lit, et son visage était tiré et d'une pâleur de cendre. Mes genoux se mirent à trembler. Là, sur le lit, la pauvre Lucie était étendue, apparemment sans connaissance, plus horriblement pâle et affaiblie que jamais. Même ses lèvres étaient blanches, et ses gencives semblaient s'être rétractées, comme on peut parfois le voir sur un cadavre après une très longue maladie. Van Helsing leva un pied rageur pour frapper le sol, mais un instinct issu de longues années d'habitude, l'arrêta, et il le reposa doucement au sol. « Vite, dit-il, amenez le brandy !» Je filai à la salle à manger et revins avec la carafe. Il en humecta les pauvres lèvres blanchâtres de Lucie, puis nous lui en frottâmes les mains, les poignets et le cœur. Il prit son pouls et, après quelques instants d'insoutenable angoisse, il dit « Il n'est pas trop tard !» Il bat, bien que faiblement. Tout est à refaire, nous devons recommencer. Le jeune Arthur n'est pas ici, je dois faire appel à vous-même, mon ami John. » Et tandis qu'il parlait, il sortait de sa sacoche les instruments nécessaires à la transfusion. De mon côté, j'avais ôté ma veste et relevé ma manche de chemise. Il n'y avait pas la possibilité d'utiliser un opiacé, et à vrai dire, ce n'était pas nécessaire. et nous commençâmes donc l'opération sans délai. Après un moment, qui ne me sembla pas court en tout cas, car tirer son sang, même si on le fait de son plein gré, est une expérience terrible, Van Helsing leva un doigt pour me mettre en garde. « Ne bougez pas, » dit-il. « J'ai peur qu'en retrouvant ses forces, elle ne s'éveille, et cela pourrait être dangereux, oh, tellement dangereux. Mais je vais prendre mes précautions. Je vais lui faire une injection hypodermique de morphine. » Ce qu'il fit avec rapidité et dextérité. L'effet de la drogue sur Lucie ne fut pas mauvais. L'évanouissement sembla se transformer graduellement en un sommeil dû au narcotique. Ce ne fut pas sans une certaine fierté que je pus voir les joues et les lèvres pâles reprendre de légères teintes de couleur. Aucun homme ne peut imaginer, tant qu'il n'en a pas fait l'expérience, ce qu'on éprouve quand on réalise que son sang quitte son propre corps pour celui de la femme qu'on aime. Le professeur me regarda d'un œil critique. « Cela ira, » dit-il. « Déjà, » protestai-je. « Vous en avez pris beaucoup plus à Hart. » Sur quoi il sourit tristement et répliqua. « Il est son fiancé. « Vous avez du travail, beaucoup de travail à faire, pour elle et pour les autres. Et pour l'instant, cela suffira. » Après avoir interrompu l'opération, il s'occupa de Lucie, tandis que je pressais avec le doigt ma propre incision. Je m'étendis en attendant que le professeur veuille bien s'occuper de moi, car je me sentais faible et vaguement malade. Puis il vint me faire un pansement et m'envoya en bas boire un verre de vin. Tandis que je quittais la pièce, il me suivit un instant et me murmura à l'oreille. « Souvenez-vous, ne parlez de ceci à personne. Si notre jeune fiancé revenait à l'improviste, ne lui dites pas un mot. Cela ne manquerait pas de l'effrayer et de le rendre jaloux aussi. Il ne le faut pas. Allez !» Quand je revins, il me regarda avec attention, puis me dit « Vous n'êtes pas si mal en point. Allez dans la chambre à côté et étendez-vous sur le sofa, reposez-vous un moment. Puis prenez un petit déjeuner et venez me rejoindre. » J'exécutai ses ordres, car je savais qu'ils étaient sages et pertinents. J'avais fait ma part, et maintenant, mon devoir était de recouvrer mes forces. Je me sentais très faible, et cette faiblesse m'empêchait de m'étonner de ce qui venait de se passer. Toutefois, en m'endormant sur le sofa, je me demandais encore et toujours comment l'état de Lucie avait pu s'aggraver à ce point. Et comment elle avait pu perdre autant de sang sans qu'on en ait pu voir nulle part la moindre trace. Je pense que cette question me poursuivit jusque dans mes rêves, car éveillé ou endormi, ma pensée revenait toujours à ces deux petites piqûres sur sa gorge, et à leur bordure déchiquetée, bien qu'elles fussent minuscules. Lucie dormit bien toute la journée, et lorsqu'elle se réveilla, elle avait quelque peu retrouvé sa santé et sa force. Quoique pas autant que le jour précédent. Van Helsing l'examina, puis il sortit faire quelques pas, me la confiant, en me recommandant strictement de ne pas la quitter un seul instant. J'entendis sa voix dans le hall. Il demandait comment se rendre au plus proche bureau de télégraphe. Lucie bavarda tranquillement avec moi et ne semblait pas consciente de ce qui s'était passé. J'essayais de l'amuser et de l'occuper. Quand sa mère monta la voir, elle ne sembla pas non plus apercevoir du moindre changement. Mais elle me dit avec gratitude « Nous vous devons tant, docteur Seward, pour tout ce que vous avez fait. Mais vous devez vraiment faire attention à ne pas vous surmener. Vous avez l'air très pâle, vous aussi, maintenant. Vous devriez vous trouver une femme pour s'occuper de vous et vous entourer de ses soins, croyez-moi. » Tandis qu'elle parlait, Lucie devint écarlate. Même si ce ne fut que momentané, car ses pauvres veines ne purent soutenir bien longtemps cet afflux de sang vers son visage. En réaction, elle redevint d'une extrême pâleur quand elle tourna vers moi un regard implorant. Je souris en lui faisant un petit signe de connivence et mis un doigt sur mes lèvres. Et après un soupir, elle s'abandonna au milieu de ses oreillers. Van Helsing revint au bout de 2 heures et me dit « Maintenant, vous rentrez chez vous, vous buvez et vous mangez bien. Retrouvez vos forces. Je resterai cette nuit au chevet de notre jeune miss. Vous et moi devons étudier ce cas, mais personne d'autre ne doit savoir. J'ai de très graves raisons pour cela. Non, ne me demandez rien et pensez ce que vous voudrez. Ne craignez même pas d'imaginer ce qui pourrait vous sembler le moins probable. Bonne nuit. Dans le hall, deux servantes vinrent me demander si elles ne pourraient pas veiller Miss Lucy, ou au moins l'une d'entre elles. Elles m'implorèrent même, et quand je leur eus expliqué que c'était le désir du docteur Van Helsing que Lucy ne soit veillée que par lui ou par moi-même, elles me demandèrent piteusement d'intercéder auprès du gentleman étranger. J'étais très touché par leur gentillesse, peut-être parce que je me sens faible, et peut-être aussi parce que c'était envers Lucy qu'elles manifestaient ainsi leur dévouement. J'ai souvent vu des occasions où les femmes faisaient preuve d'une telle bonté. Je rentrai ici à temps pour prendre un dîner tardif, puis je fis ma ronde. Tout allait bien. Et j'écris ceci en attendant le sommeil, qui ne tardera plus.
11 septembre.
Je suis retourné à Hillingham cet après-midi. Y ai retrouvé Van Helsing de très bonne humeur et Lucy qui était beaucoup mieux. Peu après mon arrivée, un gros colis de l'étranger arriva pour le professeur. Il l'ouvrit avec empressement, un empressement affecté naturellement, et en sortit un grand bouquet de fleurs blanches. « Elles sont pour vous, Lucy, » dit-il. « Pour moi, oh, docteur Van Helsing !» « Oui, ma chère, mais pas pour votre amusement. Ce sont des médicaments. » Lucy prit un air dégoûté. « Non, vous ne les prendrez pas en décoction ou sous quelque autre forme nauséabonde. Alors, vous n'avez pas besoin de froncer ce joli petit nez. Ou alors, je vais devoir informer Arthur de l'infortune qui sera la sienne, quand il verra la beauté qu'il aime se distordre de cette façon. « Ah ah, ma mignonne petite miss !» Voilà ce joli nez redevenu tout droit. C'est un médicament, mais vous ne savez pas comment on l'utilise. Je le place à votre fenêtre, j'en fais un joli petit collier et je le passe autour de votre cou et ainsi vous dormez bien. Et oui, tout comme les fleurs de lotus, elles vous aideront à oublier vos soucis. Leur odeur rappelle celle des eaux du fleuve Lethé. Et de cette fontaine de jouvence que les conquistadors cherchaient en Floride, et qu'ils ne trouvèrent que trop tard. Tandis qu'ils parlaient, Lucy examinait les fleurs et respirait leur parfum. Puis elle les laissa retomber et dit, mi-rieuse, mi-dégoûtée, « Oh, professeur, je crois que vous me faites une farce. Ce sont tout simplement des fleurs d'ail. » À ma grande surprise, Van Helsing se leva, serrant les mâchoires et fronçant ses épais sourcils. Puis il dit « Je ne plaisante pas, je ne me moque jamais. Il y a un but très sérieux à tout ce que je fais, et je vous avertis que vous ne devez pas me contrarier. Prenez garde pour le salut des autres, sinon pour le vôtre. » Puis, voyant que Lucy était terrorisée, comme on l'imagine, il reprit d'un ton beaucoup plus doux « Oh, petite miss, ma chère, n'ayez pas peur de moi. Je ne veux que votre bien, mais ces fleurs communes peuvent vous faire tellement de bien. Écoutez, je les placerai moi-même dans votre chambre. Je fabriquerai moi-même le collier que vous porterez. Mais chut, il ne faut rien dire aux autres qui posent des questions indiscrètes. Il faut obéir, et le silence fait partie de l'obéissance. » Et l'obéissance vous amènera forte et en bonne santé entre les bras aimants qui vous attendent. Maintenant, reposez-vous calmement. Venez avec moi, ami John, vous allez m'aider à décorer cette chambre avec l'ail. Il nous vient tout droit de Harlem, où mon ami Van Der Poel le fait pousser dans des serres toute l'année. J'ai dû lui télégraphier hier, sinon nous n'aurions pas pu les avoir. Nous revînmes dans la chambre portant les fleurs. Sans aucun doute, les pratiques du professeur étaient étranges, et je n'en avais jamais entendu parler dans aucune pharmacopée connue de moi. D'abord, il ferma les fenêtres et les verrouilla soigneusement. Puis, prenant une poignée de fleurs, il les frotta sur le châssis, comme pour s'assurer que le moindre souffle d'air qui pourrait entrer serait saturé de l'odeur de l'ail. Enfin, il frotta également le montant de la porte, en haut, en bas et sur les côtés. Et il fit de même autour de la cheminée. Cela semblait tellement incongru que je lui dis « Eh bien, professeur, je sais qu'il y a toujours une raison à ce que vous faites, mais je vous avoue que je suis perplexe. Il est heureux qu'il n'y ait ici aucun esprit sceptique, car il dirait que vous préparez un sort pour repousser un esprit maléfique. » « Peut-être bien, » répondit-il calmement, tandis qu'il commençait à fabriquer la guirlande que Lucie devrait porter autour du cou. Puis il attendit que la jeune fille eût fait sa toilette pour la nuit, et quand elle fut au lit, il revint dans la chambre afin de passer lui-même la guirlande d'ail autour de son cou. Et avant de partir, il dit encore « Faites attention à bien la garder sur vous, et même si la chambre sent le renfermer, n'ouvrez surtout pas la fenêtre ou la porte pendant la nuit. » « Je vous le promets, » répondit Lucie. « Et merci mille fois à vous deux pour votre gentillesse. Qu'ai-je fait pour mériter de tels amis ?» Quand nous quittâmes la maison, dans mon fiacre qui m'avait attendu, Van Helsing me dit « Cette nuit, je dormirai en paix, et il faut que je dorme. Deux nuits de voyage, beaucoup de lectures entre-temps, et encore beaucoup d'inquiétudes dans la journée à venir. » Et encore une nuit à veiller notre malade et sans fermer l'œil. Demain, tôt le matin, vous viendrez me rendre visite et nous irons voir ensemble notre jolie petite Miss, qui aura retrouvé toutes ses forces grâce au sort que j'ai lancé. Ha 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 ! Il semblait si confiant que, me souvenant à quel point j'étais optimiste deux nuits auparavant, et avec le résultat désastreux que l'on sait, je ressentis une vague terreur. Mais j'étais tellement fatigué que j'hésitais à me confier à mon ami. Et pourtant, je sentais la peur au fond de moi, comme des larmes que l'on retient.